Nous passons donc au quatrième chapitre de Hilchot Teshuvah. Et nous avons ici des listes. Des listes, chiffrées d'ailleurs. Les chiffres ont un sens, probablement chez Rambam, bien que jamais il ne dit expressément la chose. Mais enfin, il y a des chiffres qui reviennent toujours chez le Rambam. Par exemple, le chiffre 14. Le chiffre 4, le chiffre 7 parfois aussi. En tout cas, donc, allons-y. Je prends ici la première halakha. Arba'a ve'isrim devarim, me'akevin et ateshuva. Il y a 24 choses qui entravent la teshuva. Ça veut dire qu'on peut faire toujours teshuva, mais il y a une difficulté en chemin. Non, ça c'est le Rambam que je lis. Je lis ici le Rambam dans Mishneh Torah. D'accord? Est-ce que tu as le texte? Non, tu ne l'as pas. Non, ah, tu l'as. Ah, d'accord, voilà. Oui. Maintenant, quelqu'un a demandé au Rambam où est-ce que c'était écrit? Parce que on l'a trouvé ni dans la Mishnah, ni dans la Tosefta, etc. Alors le Rambam a répondu, je crois que ce sont les sages de Lunel en France. Comment interroger le Rambam? Il leur a dit, c'est vrai que c'est pas écrit comme ça dans la Gemara, mais si on fait la liste, si on cherche un peu partout, on trouve ça. À part ça, j'ai copié ça, dit-il, des halachot du Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi. Rabbi Yitzhak Alfasi était le maître de Rambam. D'accord? Bon. Donc, Arba ve'isrim devarim me'akevin et ateshuva. Donc, il y a 24 choses qui entravent la teshuva. Arba mehem, 4 d'entre eux, Avon Gadol sont des grands péchés. Ve'aoseh achat mehen, en akadosh baruch hu masvik biyado la'asot teshuva lefi godel chet'o. Dieu ne le laissera pas faire teshuva à cause de la gravité de sa faute. Ve'eluen, voici donc les quatre premiers. Amarti et Arabim, celui qui fait pécher le grand nombre. Ve'uvichlal avonze, et ce qui est inclus également dans ce péché, Ameakev et Arabim et la Sot Mitzvah, celui qui empêche le grand nombre de faire une mitzvah. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, le Rambam? Le roi Yerovam. Vous connaissez l'histoire du roi Yerovam? Oui. Tu connais l'histoire de Yerovam? Non, ouais, d'accord. Quand je pose une question, j'aime avoir un feedback et que donc on me réponde. Voilà. Donc l'histoire de Yerovam, c'est à l'époque donc du premier temple. Après la mort du roi Salomon, il y a un schisme dans le peuple d'Israël. Les tribus du nord fondent un royaume à part qui va s'appeler le royaume d'Israël. Les tribus du sud vont faire un royaume à part qui s'appelle Yehuda. Donc vous avez là-bas deux pays, Yehuda et Israël, deux États. La capitale de Yehuda, c'est Jérusalem. La capitale d'Israël, c'est Shomron. Et ce qui se passe, c'est bon, cette division, ce schisme, c'était encore acceptable puisque c'est un prophète qui a encouragé le roi Yéroboam à se révolter et à fonder un royaume à part. Mais oui, quoi?
Pourquoi c'est justement cette séparation?
Alors ça, c'est dans le cadre de l'étude du Tanakh. C'est là que, quand nous arriverons au livre de Melachim, si nous y arrivons, nous en parlerons. D'accord? Et ce qui est grave, c'est que Yerovam, en français Jéroboam, a empêché le peuple de monter à Jérusalem 3 fois par an, parce qu'il avait peur que quand le peuple arrive à Jérusalem et qu'il voit le roi de Juda dans le temple avec toute sa splendeur, que le cœur du peuple soit attiré par la maison de David. Et donc, il a fait un culte alternatif, deux veaux d'or, un à Bethel et un à Dan. Et donc, le Tanakh est très violent par rapport à ça. Il dit, Asher Chata, Ve'echeti et Israël. Il a péché et il a fait pécher Israël. comme il a péché et qu'il a fait pécher Israël, c'est considéré comme la plus grave des fautes. C'est-à-dire, si quelqu'un pêche pour lui-même, ça va, il entraîne les autres, c'est très grave. Et donc, c'est un des cas où la teshuva est empêchée. Oui.
Et si c'est un groupe qui fait pécher justement un autre groupe. Ça veut dire, par exemple, si c'est, imaginons une Medina ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est la même échelle, la faute?
Non. Non.
C'est
bon.
Que par rapport à une personne?
Oui. C'est écrit dans le Ktav Sofer, je crois, qu'on ne fait pas un idouï pour une communauté. Donc, ça, c'est donc le premier cas qui est considéré par le Tanakh comme étant très grave. À chaque fois, le Tanakh revient là-dessus. Deuxièmement, Ve'amate et Havero miderech tova lera kegon masid ou madiar. Celui qui entraîne son prochain du bon chemin vers le mauvais chemin, comme par exemple l'incitateur à l'idolâtrie, le masit ou madiar, et ça, c'est donc même pour un individu qui entraîne un autre individu à faire le mal. Le premier cas, c'était celui qui entraîne la multitude. Troisième cas, aroe beno yotze le tarbut ra'a veno mamche beyado. Celui qui voit son fils sortir dans une mauvaise conduite et il ne l'empêche pas. Hoil uvno birshuto, car son fils est dans sa domination. Ilu mihabo ayaporesh insa ke martiro. S'il l'avait empêché, alors le fils aurait cessé et donc c'est comme si le père l'avait fait pécher. Ouvichal avonze, et dans le cadre de ce même péché, kol shevchar beyado limchot ba'acherim, tout celui qui a la capacité de s'opposer aux autres, ben yachid ben rabim velo micha elayanichem bekishlonam, mais que ce soit pour des individus ou pour une multitude, et il n'a pas protesté, il les a laissés dans leur chute. Donc, en fait, les trois premiers cas, des quatre, ce sont des cas où quelqu'un est responsable par rapport à un autre. Que ce soit envers la multitude, soit par l'incitation, ou par l'indifférence par rapport à celui dont nous avons la responsabilité. Le fils, par exemple. Est-ce que là, vous suivez? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Le fils est en tout cas, on est d'accord.
Il s'agit d'un fils qui écoute son père. Il s'agit d'un fils. Ça dépend. Il y a toutes sortes d'âges. Il y a des âges où on écoute encore son père et des âges où on n'écoute pas. D'accord. Quatrième cas. Et là, ça concerne la personne elle-même. Oui. Qu'est-ce qu'il veut, Raman, du principe
qu'Israël avait des lasers? Qu'est-ce
qu'il veut? J'ai pas compris. Tout Israël est responsable. Oui,
qu'Israël avait des
lasers, alors? Oui, non, ça veut dire qu'on est arrivé, mais on n'est pas toujours capable. C'est vrai qu'on est responsable, mais on n'est pas toujours capable. Par exemple, il y a des personnes sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Je n'ai pas d'autorité. D'accord? Quatrième cas. Vea Omer Echetav Veashuv ou Vichlalze Ha Omer Echetav Yom Akipurim Mechaper. Celui qui se dit je vais pécher et faire teshuva, ou celui qui se dit je vais pécher et le jour de Kippour expira. Alors la Mishnah effectivement dit comme ça. Ah tiens, donc tu es là, tu es arrivé en retard au cours. Bon, et donc Ha Omer Echetav Veashuv Echetav Veashuv. Celui qui dit je vais pécher et revenir, je vais pécher et revenir, alors on ne lui donne pas l'occasion de faire teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un pêche et il se base sur la teshuva qui viendra après, ça veut dire qu'en fait son orientation c'est vers le péché. Donc il n'a pas de chance de faire teshuva parce qu'il va rentrer dans un engrenage. Surtout s'il dit Echeta ve'ashuv, c'est deux fois. C'est comme s'il disait Echeta, je vais pécher, ve'ashuv lachato ve'ashuv. Je vais refaire encore le péché et faire teshuva. Alors évidemment, Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui dit je vais pécher et faire teshuva, fait teshuva? Ça tient ou pas?
Ça dépend.
Pourquoi ça ne tiendrait pas?
Ça dépend.
Non, c'est pas ça qu'il dit Rambam. Le Rambam dit, celui qui dit je vais pécher et faire teshuva, ça l'empêche de faire teshuva. Mais s'il fait teshuva quand même?
Ça l'empêche, mais... Ah, c'est ok,
j'ai d'accord. Et s'il fait teshuva quand même, c'est accepté ou pas?
Oui.
Oui ou pas?
C'est un entravement la teshuva.
Hein?
Quand même dit que c'est un entravement la
teshuva. C'est un entravement, mais est-ce que ça veut dire que la teshuva est impossible?
Non.
Il ne dit pas que c'est impossible. Il faut être très précis quand on lit le Rambam. Le Rambam n'a jamais écrit il est impossible de faire teshuva. Il dit me'akev. Me'akev, ça entrave. Ça veut dire que ça fait une embûche sur le chemin. Mais est-ce que ça veut dire que la teshuva est totalement impossible? La réponse est non. La teshuva est toujours possible. Mais elle est plus difficile. Quoi?
Non, parce que la teshuva, c'est en trois, je crois que c'est ce qu'on a dit l'année dernière, c'est en trois étapes. Donc,
On l'a pas dit l'année dernière, on l'a dit cette année aussi.
Ouais, ben, on l'avait dit cette année aussi. Et que la dernière étape, c'est de revenir sur le moment de la faute, quoi. De avoir la même épreuve et de ne pas la refaire.
Non.
C'est pas
non, ça que ça non, non. On a vu au début du deuxième chapitre que c'était ça la définition de la teshuva gemura. Ah. La teshuva achevée. Mais la teshuva elle-même, elle ne nécessite pas forcément ça.
Ok.
D'accord.
Mais là, il doit faire deux fois teshuva, c'est ça.
Pourquoi?
Teshuva sur sa faute et teshuva sur le fait qu'il dise je vais refaire.
Ah oui, mais quel péché c'est ça?
Le mensonge.
À qui il ment? Il se ment à lui-même. Il n'y a pas d'alakha qui est interdit de se mentir à soi-même.
C'est bien
dommage. Oui. Non, ce n'est pas bien de se mentir à soi-même. Mais est-ce que c'est un péché dans le Shulchan Aruch? Je ne crois pas. Bon, en tout cas...
Il y a écrit le péché de mentir,
il y a écrit le péché de mentir. Non. Vous ne mentirez pas. D'après la halakha, c'est au Beddin. D'accord ?
C'est pas
vrai,
c'est une charation.
Hein ? Ça peut être... c'est terrible.
Non, mais c'est le bénéfice d'un certain cas.
Pourquoi ?
Le seul exemple que j'ai là, c'est par exemple quelqu'un qui veut passer un concours, qui veut une certaine note, et dans cette note, il se dit c'est sûr que je l'aurai. Alors qu'en vrai, il n'y a aucune chance qu'il l'ait. Il va quand même se donner à fond pour l'avoir et il n'aura pas la note qu'il aurait voulu, mais il aura une meilleure note que si il était
prévu. Ouais, bon, c'est une stratégie. Oui, d'accord. De toute façon, il est impossible de ne pas mentir dans ce monde. Par exemple, si tu me demandes l'heure qu'il est, je ne pourrais jamais te dire très précisément à quelle heure il est. Pour une raison très simple, c'est que le temps passe. Entre la question et la réponse, et le moment où j'ai regardé ma montre, quelque chose a changé. Donc, en fait, il n'y a pas de vérité absolue dans notre monde à nous. Donc, on est dans un monde de mensonges. Seulement, l'interdiction de mentir est écrite dans la Torah autrement. Midvar sheker tirhak. Tu t'éloigneras d'une parole mensongère.
Mais c'est pas interdit.
Non. La mitzvah, c'est de s'éloigner, parce qu'on s'éloigne autant que possible de dire c'est le mensonge. On ne peut jamais dire la vérité absolue. D'accord? Mais au tribunal, là, il ne faut pas mentir, c'est plus grave. L'autre est chakiro.
Oui, mais il y a une vérité relative, même si elle n'est pas absolue.
Ouais, une vérité relative, c'est un mensonge.
Pas à nos yeux.
Comment?
Pas à nos yeux.
Pas à nos yeux, mais c'est un mensonge quand même. La seule vérité, dit le Rambam, au début de l'Ilchot Yesodei HaTorah, c'est Dieu lui-même. Hachem Elohim Emet. C'est Dieu qui est la vérité. Tout le reste. D'ailleurs, en arabe, c'est intéressant. Le mot qui veut dire vérité en arabe, c'est quoi? Al-Haq. N'est-ce pas? C'est également, ça veut dire également Dieu. Intéressant. L'arabe identifie Dieu et vérité. D'accord? Bon. En tout cas, donc, nous avons ici les quatre cas les plus graves. Rappelons une chose importante. La teshuva est toujours possible. Elle est plus difficile. C'est tout. Bon. Le Rav Kook dit que si quelqu'un comporte en lui une de ces 24 choses qui entravent la teshuva, mais qu'il fait tous les efforts, alors il dit, viendra une occasion qui lui sera procurée par la Providence de réparer. Omehen, Hamisha Dvarim, No'alim Darrea Teshuva Bifne Oseen. Il y en a 5 qui verrouillent les chemins de la teshuva pour ceux qui font ces choses-là. Ve'elouen. Et les voici. Aporash Milatzibur. Celui qui se sépare de la communauté. Et il vit à part. Les filles. Chez Bizman, chez Asu Teshuva, Loye Imaem. Ve'enozoche Imaem, Bizrut Sheosim. Parce que quand il... Oh, il y a un drame. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam shehakol nidbar. J'ai pu découvrir par un coup d'œil qu'il y a ici un élève sans texte. Ah, bon. Ah, d'accord. Bon. Tu veux un texte?
Je sais pas faire.
Tu connais par cœur, oui, mais fais semblant, de ne pas savoir. Allez, vas-y. Bon. Donc, c'est le deuxième cas. C'est, ils se séparent de la communauté, les fils et les bizins chez Asu Teshuva, parce que lorsqu'ils feront Teshuva, l'Oyeimaen, il ne sera pas avec eux, et Nozocheimaen, Bisrout Abbasrout Cheosim, et donc n'a pas le mérite de ce qu'ils font. Ça me rappelle un peu le cas du japonais qu'on a retrouvé après 20 ans, après la deuxième guerre mondiale, dans une île du Pacifique. Il ne savait pas que la guerre était finie. Et donc, quand il a refusé de se rendre, il était avec ses mitrailleuses, etc. Il a fallu que son officier direct du temps de la guerre lui dise que la guerre était finie pour qu'il accepte de se rendre. Oui.
Nous, il tient ça le lendemain.
C'est dans la Guémara. C'est un peu partout. Comme les sages de Lunel ont demandé à Rambam, où est-ce que ça se trouve? Alors il a dit que c'est une liste, Todaraba, établie par le Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, qui était le maître de Rambam, mais qui en fait est une réunion de plusieurs passages de la Guémara. D'accord?
Lequel est le plus simple à envoyer les gens quand ils nous posent la question, parce qu'on voit beaucoup de gens malheureusement dans la société israélienne qui se pensent au-dessus, qui disent c'est pas pour moi, moi je vis ma petite vie à côté bien tranquille, j'ai pas besoin de rester avec le plat, ça va me faire des problèmes, etc. Et c'est un, personnellement je trouve que c'est un véritable problème, surtout s'ils nous disent ça, alors comment est-ce qu'on la renvoie au Mishneh Torah, ou il y a une source entre guillemets plus claire ou plus acceptée par la majorité?
Ah, tu veux dire des religieux qui font comme ça?
Oui.
T'as qu'à voir dans le chapitre guillemets à la Chayud Aleph. Je l'ai pas photocopié celle-là. On l'a pas photocopié. D'accord? Mais Gimel Yud Aleph. D'accord? Bon. Bet. Ve'acholek adivre chachamim. Celui qui est en désaccord avec les paroles des sages. C'est-à-dire un karaïte, par exemple. Il n'accepte pas l'interprétation des chachamim. Les filles, chez Machlokto, gore met lo lifroche même. Parce que son opposition, l'entraîne à se séparer d'eux, ve'eno yodea darchea teshuva, et donc il ignore les chemins de la teshuva. C'est très simple, d'accord? C'est bon. Dalet, guimel, pardon. Ve'amal'ig ala mitzvot, celui qui se moque des commandements. Shekevan shinit bazu be'enav, car comme ils sont méprisables à ses yeux, eno rodef achareen, il ne cherche pas à les accomplir. Velo osan, il ne les fait pas. Vimlo yase, bah meiske, s'il ne le fait pas, comment méritera-t-il? Dalet. Vamevase rabotav, celui qui humilie qui insulte ses maîtres. Shedavarze gorimlo le dochafo, le tordo. Parce que cela l'entraîne à être repoussé et perdu. Que Gehazi, comme Gehazi.
Écrit aussi Yoshua, pied et pied soit.
Alors ça dépend des éditions. Dans mon édition, là, celle que j'ai devant moi, il y a écrit seulement que Gehazi, mais tu as raison, dans le texte originel, que Gehazi et Yeshua, comme Gehazi et Jésus.
Il s'est passé quoi avec le... Enfin, à part Jésus, je sais, mais c'est qui Gehazi?
Gehazi. J'étais persuadé que tu avais lu le Tanakh.
Vous savez.
Bon.
C'est la même chose de...
Bon. Vous voulez expliquer qui c'est Gehazi?
Voilà.
Ah, tu savais pas? Non. Tu n'as pas demandé qui c'était?
Je pense que nous sommes une majorité d'ignorants dans cette place.
Ah bon? D'accord. Bon. Je vais m'expliquer à moi-même qui était Gehazi, d'accord? Gehazi, c'était le directeur général des affaires du prophète Elisha. Elisha, ça vous dit quelque chose? Oui? Qui? Hein? Un prophète, oui. C'était l'élève de quel prophète?
quelle époque?
Ben, c'est à l'époque des rois.
Mais c'est quel roi justement
à l'époque de Elisha, c'est à l'époque de Yehoram. D'accord? Yehoram qui était le successeur de
Jéhovah.
Non. De Ahav. D'accord? Et qui était le prophète de temps de Ahav? Eliyahu Hanavi. Ah oui, le prophète Eliyahu. Il était prophète à l'époque de Ahav. L'élève de Eliyahu, c'est le prophète Elisha. En français, Élisée. D'accord?
Quoi?
Non, ça n'a rien à voir. Non, vraiment absurde, rien à voir. Mais le prophète Elisha ou Élisée était donc l'élève de Eliyahu Hanavi. Et son adjoint, enfin son directeur général, son responsable de ses affaires, c'était Gehazi.
Que lui est arrivé?
Comment?
Que lui est-il arrivé?
Alors là, c'est raconté dans le Tanakh. D'ailleurs, c'est aussi une haftara. Je rappelle que c'est aussi une haftara. À propos de Naaman. Naaman, ça dit quelque chose? Non, Naaman, avec un A. D'accord? Il y a une entreprise de céramique israélienne qui s'appelle Naaman. Aussi. D'accord, mais ça n'a rien à voir. Naaman était un général de l'armée araméenne, les Syriens de l'époque. Et il était un homme, un grand héros de guerre. Il avait sauvé Aram dans sa guerre contre Israël. Et il était lépreux. Il avait la lèpre. Et il avait dans sa maison une servante captive du royaume d'Israël qui lui a dit, je ne comprends pas pourquoi tu te poses des problèmes. Il y a chez nous un prophète qui peut te régler ça. Elle pensait donc au prophète Elisha. Naaman va voir le roi d'Aram, Hazael, pour lui demander l'autorisation d'aller se faire guérir parce que c'est un pays ennemi. Le roi d'Aram envoie une lettre au roi d'Israël dans laquelle il lui dit « Je t'envoie Naaman, mon général en chef, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Sans lui parler d'Elisha, sans rien du tout, le roi d'Israël, c'était Yehoram, se déchire les vêtements, il dit « Il me cherche Noise. » Et alors ses serviteurs lui disent « Non, non, t'en fais pas, adresse-toi à Elisha, il va s'occuper de ça. » Elisha, et donc Naaman arrive, et il se tient en dehors de la maison du prophète. On lui dit « Naaman est arrivé, dites-lui d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. » Naaman est en colère, il dit comment, non seulement il n'a pas reçu, mais moi je sais me laver, on a des fleuves également à Damas, etc., c'est ces histoires. Les serviteurs de Naaman lui disent, écoute, si tu avais dit de faire quelque chose de difficile, tu aurais fait. Il te dit une chose simple, essaye. Bon, il va au Jourdain, il se trempe 7 fois, et il a la peau entièrement guérie comme un enfant qui vient de naître. Tout content, il monte sur son cheval, se rend chez le prophète, et alors là, Elisha le reçoit, et lui dit, voilà, merci beaucoup, je suis très content, je sais que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, etc., etc. Il devient Gertoshav. Un Gertoshav, il lui demande simplement l'autorisation de se prosterner dans le temple idolâtre à Damas pour pas se faire tuer par le roi, Elisha le laisse. À part ça, il dit, puisque déjà je suis là, j'ai des cadeaux pour toi. Et il dit, voilà, j'ai plein de richesses à te donner. Et Elisha lui dit, non, je veux rien. Va-t'en. Jusque-là, tout se passe comme il faut. Gehazi, voilà, Gehazi, le serviteur donc d'Elisha, court à la rencontre de Naaman et lui dit, regarde, j'ai un problème, mon maître vient de recevoir des invités importants, est-ce que tu peux donner de quoi manger, etc. Il lui donne. Et donc Elisha qui comprend ce qui s'est passé, maudit et Gehazi, il lui dit que la lèpre de Naaman se colle à toi et à ta descendance. Et alors Gehazi devient lépreux, ses enfants aussi. Enfin, c'est toute une histoire. Et lors du siège de Shomron, lorsque il y a des lépreux à l'extérieur qui vont sauver le peuple, ce sont les enfants de Gehazi. Voilà. Donc Gehazi était un type intéressé qui comprenait rien du tout au message de son maître. Il pensait simplement comment gagner de l'argent avec ça. Voilà. Et Elisha l'a rejeté au loin. Et la Guémara dit qu'il a été trop fort. Oui.
Il a le droit de maudire ?
Non, il n'a pas le droit.
Ben, on n'avait pas le droit à l'époque de maudire.
Mais maudire un juif, c'est pas...
Pourquoi il n'aurait pas le droit de maudire ?
On n'a pas le droit de maudire un juif, c'est une loi, non ?
Où est-ce que c'est écrit ?
Dans la Torah.
Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ?
Qu'on
n'a
pas le droit de maudire.
L'autre calé le cheresh, oui. Bon, à moins que ce soit nécessaire.
Allez, dans ce cas,
c'est nécessaire. D'accord ? Il y avait un chidou lachem énorme.
Mais il a eu besoin de prophétiser pour savoir qu'il a dû le maudire ou pas du tout ?
Il savait ce qui s'était passé, de toute façon. Il a compris, il était encore dans le texte. En tout cas, donc, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un, donc, méprise, un mévaser à Botaï, il méprise ses maîtres, cela va finalement l'amener à être rejeté par ses maîtres et donc à... ne plus avoir les chemins de la vérité et de la
faute du maître.
Alors la Guémara dit que Gehazi a exagéré. Elisha a été trop loin. Ouais.
Il aurait dû laisser un espoir de
retour. Exactement. Il a été trop violent avec Gehazi, qu'il a après tout été un type moyen.
Pourquoi Elisha peut dire que Gehazi maintenant il a la lèpre de toute sa descendance ? Il lui prophétise ça ou c'est
non, il le maudit. Il le maudit. La malédiction d'un Chacham marche. Il faut faire attention à la malédiction des Chachamim.
C'est vrai la responsabilité qu'il a.
Oui, c'est comme s'il lui avait tiré une balle dans la tête. Voilà. Bon. La même chose pour Jésus. Et Yehoshua ben Brachia, son maître. La Guémara dit aussi que Yehoshua ben Brachia était trop loin. Bon. Uvizman chez Nitrad, et lorsqu'il est renvoyé, Loïmtsa Melamed ou Morelo de Rechaemet, il ne trouvera pas qui pourra lui enseigner et l'instruire dans le chemin de la vérité. Je me rappelle, j'ai rencontré il y a 2 mois un groupe de catholiques français qui ont demandé à me rencontrer. Je ne sais pas pourquoi ils avaient du temps à perdre. Et bon, ils m'ont posé des questions, on a discuté, on a fait un entretien. Et alors, une des questions qu'ils m'ont demandé, qui c'est pour vous Jésus ? Comment ? Bon, on a dit beaucoup de choses, mais une des choses que je leur ai dit, c'est que dans la tradition talmudique, il apparaît comme un élève de yeshiva qui se sent rejeté. Et donc, qui est frustré d'avoir été mis à l'écart, et donc qui veut être légitimé au retour. Pourquoi je leur ai dit ça ? Parce que tout le christianisme tourne autour de cette obsession d'être reconnu par les juifs. C'est absolument incroyable. Moi, je leur ai dit, pour vous, c'est très important de savoir ce que nous, les Juifs, nous pensons de vous. Tandis que nous, les Juifs, on s'en fiche pas mal de savoir ce que vous pensez de nous. Et la raison est très simple, c'est que le christianisme est issu du judaïsme, tandis que le judaïsme, il n'est pas issu du christianisme. Et donc, il y a pour eux une importance très grande à ça. D'ailleurs, ils l'ont reconnu tout de suite, ça n'a pas fait de problème. Pour eux, c'était très clair. Ouais. Et bon.
Et vous leur avez posé une question, moi ? Vous leur avez posé des questions, vous ?
Oui, je pense que j'ai dû leur poser des questions.
Ça a été filmé ?
Non, c'était un entretien privé. Ah. Ouais, mais oui, j'aurais posé des questions.
Par rapport au retour des Juifs en Israël ?
J'ai pas des questions à leur poser, moi j'ai pas de questions, je me les pose à moi-même, des questions.
C'est une question qui n'a aucun rapport.
Ouais.
Du coup, est-ce que les chrétiens, c'est une tribu cachée ?
Est-ce que c'est une tribu ?
Une tribu cachée.
Une tribu cachée ? Pourquoi ce serait une tribu ?
Ils sont juifs ?
Non, les fondateurs du christianisme, c'était des juifs, mais les nations, c'était des Romains, des Francs, des Gaulois, toutes sortes, quoi. D'accord. Hein ? Oui, effectivement. Oui. Oui. Un petit village. En Armorique ? Oui. Bon, alors où on était ? Voilà, donc c'est ça. Bon, le cinquième. Vassone et atochechot. Celui qui déteste les réprimandes. Chéaré. Loïniar loder teshuva. Parce qu'il ne se laisse pas une voie de teshuva. Chatochecha, Gorem met la tchouva, parce que la réprimande cause la teshuva. Chez Bisman, chez Maudim, Lola, Adam, Chata, ou Machlimi, Moto, quand on annonce à quelqu'un ses péchés et qu'il en a honte, Choser Bitchouva, il refait, il revient, il fait Teshuva, Kemo Shekatu Batora, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, Zachor ve Altishkar, Mamrim et Yitem, souviens-toi, n'oublie pas, vous étiez révolté, Velonatan Hashem Lachem Lev, Dieu ne vous a pas donné de cœur, Amnaval ve Lochacham, un peuple scélérat et qui est sans sagesse, ce sont des versets de réprimande. Vechen Yeshayahu, de même, le prophète Isaïe, Ochiach et Israël, a réprimandé Israël, Ve'amar, en leur disant, Hoi goy chote, ô peuple pécheur, Yadashor koneu, le taureau connaît son acquéreur, Midaati ki kasheata, parce que je sais que tu es dur. Ce sont des citations de petits morceaux de versets dans lesquels nous voyons les prophètes réprimander Israël. Donc la réprimande est une bonne chose, elle permet de faire teshuva. Vechen sivahu el ochiach lachataim, et Dieu lui a ordonné de réprimander les pécheurs. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, ça c'est dans l'Haftara de Kippour, Kera begaron al tarsor, appelle par ta gorge, ne te prive pas. Vechen kol anevim ochichu leIsrael, et de même tous les prophètes ont réprimandé Israël. Ad Shechazrou, Bitshuva, jusqu'à ce qu'ils aient fait Teshuva.
Aucun prophète n'a jamais reproché quoi que ce soit à Israël.
Si, c'est ça qu'il dit.
Non, justement, est-ce qu'il n'y a pas au moins un prophète qui n'a fait aucun reproche ?
Qui n'a fait aucun reproche. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que le Rambam dit quelque chose qui est contre la vérité historique. Les prophètes ont échoué finalement. Ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché pour toute la génération, mais ça a marché pour une partie de la génération.
Mais est-ce que le but justement ce serait de revenir à cette période-là ?
Non.
Alors c'est quoi qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ?
Puisque ça n'a pas marché avant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Est-ce que ça dépend est-ce que c'est le problème c'était les prophètes ou la génération à l'époque ?
Le système d'envoyer des prophètes pour réprimander Israël s'est révélé être un échec.
Comment faire
Oui, alors ça, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle la synthèse de la sagesse et de la prophétie. Après, les prophètes, il y a eu des sages. Les sages aussi, ça n'a pas marché.
Ça veut dire que les nouveaux, c'est les nouveaux prophètes devront être sages.
Alors, il faudra faire une autre sorte d'identité qui est la synthèse de la sagesse et de la prophétie. Ça qu'à regarder dans Oroch, dans le passage qui s'appelle Chacham Adif Minavi.
C'est
dans la partie Zeronim, dans Oroch. D'accord ? C'est le deuxième chapitre de Zeronim. D'accord ? Tu es ? Hein ? Cool ? Bon. Vezé, chez, attendez, Lefichach. Sarich Lehamid Bechol Kal Vekal Mi Israël. C'est pour ça qu'il faut mettre à la tête de chaque communauté d'Israël, Chacham Gadol, un grand sage, Vezaken, âgé, Veyere Shamay Mineurav, qui craint le ciel depuis sa jeunesse, Ve'ahuv Lahem, et qui est aimé par eux, par la communauté, Sheye Mochiach Larabim, ou Marziran Bitshuva, qui réprimande le grand nombre et les ramène à la Teshuva. Oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui a fait Teshuva, il ne peut pas.
En général, il se fait reprocher. On dit, tu nous racontes des choses. On se rappelle de qui tu étais dans ta jeunesse.
On
n'a pas le droit, mais on le fait quand même. D'accord ? Alors, dis, il faut prendre la personne la plus appréciée du public.
Il a bien fait ça.
Oui, mais il y a des exceptions, évidemment. Vézé, chez Soné et Tatochachot, mais celui qui déteste les réprimandes, et Nova la Mochiar, ne vient pas écouter le réprimandeur. Velo chomé à Devarav, il n'écoute pas ses paroles. Les fichach yamod bechatotav, shem benav tovim. Et c'est pour ça qu'il restera dans son péché qui est bon à ses yeux. Donc, il y a également le réprimandeur, la torecha, c'est-à-dire un discours qui entraîne la teshuva. Oui.
Des fois, il y a quelqu'un qui faute et qui sait que ce qui fait, c'est mal.
Oui, c'est vrai.
Alors même, il a l'air de dire que toutes les fautes sont causées par le fait qu'on les trouve bonnes à nos yeux.
Toutes les fautes?
Chatotav.
Chatotav. Il fait col chatotav. Est-ce que le Rambam dit que tous les péchés viennent de ça? De l'ignorance?
Il n'a pas l'air de faire une distinction, quoi.
Est-ce qu'il a dit expressément que tous les péchés viennent de l'ignorance?
Non.
D'accord. Donc c'est un grand principe. Pour savoir ce que dit le Rambam, il faut le lire. Et pour savoir ce qu'il ne dit pas, il faut également le lire.
Le Rav Kook.
Oui, le Rav Kook, Arlette. Shalom, oui.
Le Rav Kook en Roth dit que tous les mots de l'histoire sont dus à un manque de connaissance de la divinité.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il le dit.
Et du coup, ça revient à peu près au même.
Non.
Parce que c'est pas non. Une faute est censée amener une négation dans le monde, donc c'est quelque chose qui amène des mots.
Oui, mais non, ce dont parle le Rav Kook là-bas, c'est l'origine de tout. D'accord. Tandis que ce que ce jeune homme dit ici, c'est le fait de savoir que telle chose est interdite, c'est tout. Donc on en a fait combien pour l'instant? 4 et 5, ça fait 9 sur 24. Bon, continuons. Ou même Hamisha Devarim, et encore 5 autres choses. Haose Otam, celui qui les fait, Iefchar lo she'achzor b'tshuva gmura. Il lui est impossible de faire une teshuva complète. Les filles, chez Mavonot, chez Beladam, la Chavero, parce que ce sont des péchés envers son prochain, Veno Yodea Chavero, chez Chatalo, et il ignore qui est, et le prochain ne sait pas qu'on lui a fait du mal, il ne sait pas qui est son prochain, à qui il a fait du mal, Kede Sherzirlo, pour lui rendre, lui restituer, Oishal Mimeno Limchollo, ou pour lui demander de le pardonner, Veloué. Les voici. Premièrement, Aleph, Amekalel et Arabim, celui qui a insulté de nombreuses personnes. Velo Kilel Adam Yadoua, il n'a pas insulté une personne particulière. Kedesh Ishal Mimeno Kapara, pour lui demander pardon. Par exemple, imaginez quelqu'un qui dit, tous les rouquins sont des salauds. Oh, dire une chose pareille, vous vous rendez compte, il va devoir demander pardon à tous les rouquins. Il sait même pas où ils sont. D'accord?
Bon. Sorcières,
oui.
Mais non.
Oui.
Est-ce que là, quand il dit, c'est pas une insulte comme ça? Il dit les calèles,
c'est méprisé. Non, c'est pas forcément une malédiction. C'est des insultes. Ça veut dire une insulte. D'accord? Bête. Vacholek, Aim Ganav, celui qui partage le lot d'un voleur. Chez les filles, chez Noyodea Gnevazo Shelmihi, car comme il ne sait pas de qui ça a été volé, et là, Ganav Gonev l'Arabim ou Mevilo Volokar, mais le voleur, c'est lui qui vole de beaucoup de personnes et qui lui amène. Veod, Chehu, Mahazik, Yadaganav ou Martio. À part ça, il soutient donc le voleur et l'entraîne à pécher, ce qui revient à un des quatre premiers.
Donc c'est très très grave de faire du forex.
Du forex. Du forex. C'est quoi du forex?
Très bon. Mais en gros, c'est des gens qui appellent. Une des branches principales du forex, c'est des gens qui appellent d'autres gens. Et ils leur disent bonjour, nous sommes une boîte de boursiers, vous boursiez ce qu'on veut, etc. Investissez dans telle et telle chose, etc. Mettez toutes vos économies, c'est sûr que ça va marcher. Ils embourbent les gens et finalement ils prennent tout leur argent et les gens sont détruits.
Ça, c'est des voleurs.
Oui, justement, mais il y a des gens qui travaillent pour ça, qui font des appels, qui sont donc payés par la.
Ah, d'accord, c'est ça. Voilà. Et donc ils ne savent pas à qui ils ont volé. C'est ça, oui.
Alors dans ce cas-là, c'est comme tous les.
Oui, non, je donnais un exemple.
Bon, Gimel, Vamotse Aveda, Veno Machriz Aleha, Achir Zira Liva Aleha, ou celui qui a trouvé un objet trouvé et qui ne le déclare pas pour que son propriétaire le retrouve, la Harzman, que ça a été Teshuva, il n'y a pas de Miyarzir. Et si le temps passe, il ne saura plus, quand il fera Teshuva, il ne saura pas à qui rendre. Dalet. Vea Ochel Shor Aniyim. Attendez, je vais vous raconter comme une histoire à ce propos. Une belle histoire. Vous voulez une belle histoire?
Oui.
L'histoire, c'est, il y avait un élève du Gaon de Vilna, qui s'appelait Rabbi Zalman de Vologine. Rabbi Zalman de Vologine était un géant de la Torah, qui est mort d'ailleurs jeune, à l'âge de 37 ans, et qui connaissait toute la Torah. Oui, il connaissait tout. À part ça, c'était un très grand tzaddik, etc. Et un jour, quelqu'un est venu lui présenter des commentaires qu'il avait écrits. Des commentaires, je ne sais plus sur quoi. Il a regardé et il lui a dit, il n'était pas content des commentaires, il a dit « Peiro seicho, peiros d'moi ». Alors pour comprendre ce que ça veut dire, non, c'est pas du yiddish, c'est de l'hébreu. Mais prononcé à la manière lituanienne. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
C'est pas
à cause de là-bas ? Non. Peiro seicho, peiros d'moi. Ce qui veut dire tes fruits, perotecha, perotecha, tes fruits, perot de maille sont des fruits de maille. De maille, c'est les fruits d'un ignorant. D'accord ? On n'a pas le droit de manger les fruits d'un ignorant sans faire le maaser, etc. Bon. Maintenant, pourquoi c'est important que ce soit dit en yiddish, enfin, production ashkenaz ? Il faut savoir que le tav sans dagesh, c'est des seuls, mais ça, peiros seicho, peiros d'mai. Il faut savoir encore autre chose, c'est que les Lituaniens, comme les Marocains, ne font pas la différence entre le S et le CH. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, par exemple, perouche, ils diront peiros. Et donc, les fruits et les commentaires, c'est la même chose. Donc, peiros seicho, peiros d'mai, ça veut dire, tes commentaires sont des commentaires d'un ignorant. D'accord ? C'est un jeu de mots qu'il a fait. Bon, le type est un peu vexé, il part. Le type, une fois parti, Rabbi Zalman de Vologine se dit « Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait honte à un juif, j'avais pas le droit. » Il le cherche, il ne le trouve pas. Il fait des efforts, il se renseigne, etc. Il ne le retrouve pas, il en tombe malade. Malade, réellement, physique. Et les médecins, etc., disent non, il n'y a rien à faire. Il en est terriblement malheureux. Et ça lui prend un certain temps. Un jour, pour le guérir, ses amis ont fait une mise en scène. Ils ont payé quelqu'un pour lui dire « Tu diras à Rabbi Zalman que tu es toi la personne qui l'a insulté et que tu lui pardonnes. Comme ça, il va guérir. » Le type arrive, Rabbi Zalman comprend qu'on le trompe, il en devient plus malade. Histoire vraie, hein ? D'accord ? Finalement, c'est arrivé au Gaon de Vilna, on a raconté au Gaon de Vilna l'histoire, et alors le Gaon, dans un cours, dans lequel Rabbi Zalman était présent, a dit, quand on essaye, quand on a fait tous les efforts qu'on peut pour faire teshuva, alors c'est considéré comme si on l'avait fait. Alors il a guéri. D'accord ? Bon, c'est un peu, c'est parti donc de cette liste-là des 24. Bon, Dalet, Vea Ochel, Shor Anim, Vitomim, Vealmanot. C'est celui qui mange le taureau des pauvres, des orphelins et des veuves. Il y a ici probablement une erreur de copiste. C'est pas le mot shor, mais c'est le mot shod. C'est-à-dire, s'est emparé du butin des pauvres. C'est-à-dire, il exploite la faiblesse de certaines personnes. Ceux qui sont faibles dans la société, ce sont les pauvres, les veuves et les orphelins. Il exploite ça. Alors, c'est encore plus grave parce que ce sont des gens qui sont malheureux. Elou bene adam umlali même. Ces gens-là sont malheureux. Venam yodim umfursamim. Ils doivent nous faire ça même. Or, on ne les connaît pas, ils ne sont pas célèbres. Végolim et Irléir. Et ils errent de ville en ville. Véhen lahem makir. Et ils n'ont pas d'amis, de connaissances. Kede sheeda shorze shelmihu viarzirenulo. Pour savoir à qui est ce taureau ou ce butin pour lui rendre. C'est le même principe. Alors, on ignore la personne à qui on a fait ce mal. Et 5. Vehamekabel shohad leatot din. Celui qui a reçu un bénéfice pour orienter le jugement. C'est-à-dire un juge, il a jugé après avoir reçu un cadeau d'une des parties. Et noyode adechanigia atayazo. Il ne sait pas à quel point il a été incliné. Parce que peut-être qu'il dit, non, ce que j'ai dit là était bon. C'est-à-dire, il se ment à lui-même. Il se dit, j'ai quand même bien jugé. Vechamai kocha kedesherzir. Et quelle est la puissance de cette inclination pour rendre? Shadavar yeshloraglaim. Parce que l'argument est quand même valable. C'est-à-dire, un juge peut être entraîné à donner un argument un peu fallacieux, mais qui tient la route quand même. Veot shumarzik yadze ou martio. Car en plus de ça, il entraîne celui qui lui a donné l'avantage et le fait pécher.
Mais est-ce qu'un juge a le droit, par exemple,
On n'a pas le droit de soudoyer même un juge non juif.
Oui, mais supposons que le juge a été soudoyé, qui reçoit donc l'argent, mais qui... Il y a A et B. B a essayé de soudoyer le juge, et il a quand même voté en faveur, il a fait un dénouement en faveur de A. Est-ce qu'il a le droit de prendre l'argent quand même, de faire ça?
Non, il n'a pas le droit. Tout d'abord, parce que même s'il a fait en faveur de A, peut-être qu'il aurait pu faire plus grave pour A.
Mais on parle que des juges ici?
Hein?
On parle que des juges?
Oui, là c'est pour le juge.
Est-ce que c'est aussi interdit du coup pour les professions?
Pour les quoi?
Pour les autres professions, de prendre un peu d'un.
Par exemple, tu dois passer un examen et tu amènes un bouquet de fleurs à l'examinateur.
Voilà.
Hein?
Voilà, par exemple, pour un policier ou...
Oui, bon, allez, soyez sympa. Hein, d'accord.
Là, c'est aussi interdit.
C'est interdit, mais c'est pas du shochad. Okay. Maintenant, il y a un problème dans le Sdech Emed. Un des grands poskim de Chevron, qui auparavant était en Crimée, le Rav Chaim Chizkiyahu Medini, auteur du livre Sdech Emed. C'est une encyclopédie, ce livre-là. Et il pose, dans un endroit, il pose la question de savoir, on n'a pas le droit de donner des pots de vin à un juge même goy. Mais nous le faisons toujours. Il dit, ça se passe tous les jours, que nous passons devant les tribunaux des goïms, et nous leur donnons des pots de vin, des avantages, etc. Alors il demande, comment est-ce que c'est permis? Rappelez-vous que ça se passe à l'époque de la domination turque en Eretz Israël, l'époque ottomane. Il dit, non, on les soudoie pour qu'ils jugent comme il faut. Parce que sans le bakchich, rien ne se fait dans l'Empire turc. D'accord? Bon. Umehem, chamisha dvarim, aose otam, en cheskato la shumem. Il y a encore cinq choses que ceux qui les font ont toutes les chances de ne pas faire teshuva. Les filles, shem dvarim, kalim beene rova adam. Parce que ce sont des choses qui sont légères aux yeux de la majorité des hommes. Venim tsachote. Et donc il est pécheur. Vous y damez, shem zechet, mais il s'imagine que ce n'est pas une faute, oui, quoi.
Pourquoi il les sépare comme ça des 24? Et pas, il a pas fini directement des...
Parce que c'est pas la même chose. Il y en a où c'est le plus dur, il y en a où c'est difficile, il y en a où c'est empêchant, etc. Ce sont des
catégories. C'est quoi les nuances?
Bah, tiens, qu'à voir, on l'a lu, là.
Je sais, mais c'est, quand vous traduisez,
Oui. Quand je traduis.
On ne lit pas vraiment les nuances.
Enfin, ah oui, c'est dommage. Il y a des nuances, et il faut s'y mettre. D'accord? Ve'elouhen, et les voici. Ha'ochel, aleph, ha'ochel misouda shenam aspeket leva alea. Sheze avak gezelou. C'est-à-dire, quelqu'un qui mange dans un repas, celui qui donne le repas n'a pas assez à donner. Et donc, il mange d'un repas, en fait, il prive l'auteur du repas, enfin, le possesseur du repas, de son repas à lui. Vous mesdames, chez l'Ochata, chez Yomar Klum Achalti et la Birchoto, il s'imagine qu'il n'a pas péché parce qu'il se dit, j'ai mangé avec son autorisation. Il a exploité la gêne de la personne. Bête, Amishtamesh Bahavoto chez l'Ani, celui qui se sert du gage d'un pauvre. chez un avot chez l'ani, parce que le gage d'un pauvre, et non, et là, qui gonne cordon ou marrecha. Ce n'est que une bêche ou une charrue. Viomar bilibo, il se dit en son cœur, et nam chasserim, il ne leur manque rien. Vare lo gazal ti auto, et je ne l'ai pas volé. Mais en fait, il est interdit de se servir du gage d'un pauvre.
Je n'ai pas
compris le cas. Si c'est un gage.
Pas précisément.
Et pas précisément, c'est quoi?
Un gage, c'est quelque chose qu'on laisse pour être sûr que la personne en face va réaliser ce qu'on va trouver.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais un prêt. Ouais. La personne, tant qu'il ne t'a pas rendu l'argent, met chez toi un gage. D'accord? Et il est interdit de se servir de ce gage. D'accord? Et donc, si c'est le gage d'un pauvre, et donc c'est sa charrue, ou bien sa bêche, et je me sers de la bêche du pauvre, j'ai rien enlevé. D'accord? La bêche est entière.
Je risque de l'abîmer.
Je l'ai pas abîmé.
D'accord?
Oui, mais en général, on est d'accord de prêter sa bêche, ou sa charrue. D'accord? Donc, il se dit, je n'ai rien volé. Or, la Torah a interdit de le faire. Gimel, Amistakel Baharayot, celui qui contemple les femmes interdites. Maale Aldaato, Shen Bechar Klum, il s'imagine qu'il n'a rien fait de mal. Sheu Omer, parce qu'il se dit, Vechi Baalti o Karavti et ça, est-ce que j'ai couché avec elle? Vehu Enoyodea Shiriata Enaim Avon Gadol, il ne sait pas que la contemplation des yeux est un grand péché. Shigorem et les goufan chez la rayot, qui entraîne finalement les interdits sexuels. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, velo tatourou, achare levavrem, achare enechem. Vous ne serez pas entraîné après votre cœur et après vos yeux.
Ah,
oui.
C'est-à-dire,
par exemple, il regarde une femme qui n'est pas sa femme. Okay. D'accord, par exemple.
Il va regarder le concert d'Ariana Grande sur YouTube, par exemple.
Par exemple,
personne ne sait.
Ariana
Grande. Chanteuse américaine.
Ouais.
L'art de la pop.
Je comprends rien. Bon.
Donc, vous connaissez.
C'est quoi YouTube? Dalet. Je peux dire.
Vous c'est êtes quoi, beaucoup trop présent dessus pour pouvoir le dire. Je ne sais pas qui est dessus.
Bon. Dalet. Amit Kabed Biklon Chavero. Celui qui s'honore de la honte de son prochain. C'est-à-dire, il dénigre son prochain à son avantage à lui. Omer Belibo, il se dit en son cœur, chez Enochet, que ce n'est pas un péché. Le fils en chavero omet cham, parce que son prochain n'est pas là-bas. Velo igalo bochet, velo bicho, il n'a pas été honteux et il ne lui a pas fait honte. Et là, arach ma'asa batovim vechokhmato, le moul ma'asa chavero chokhmato. Il a simplement comparé ses bonnes actions et sa sagesse aux actions et à la sagesse de son prochain. Kede shiyera'e miklalo, shehu mechubad vechavero bazoui. Pour qu'on comprenne de cela que lui est honorable et que son prochain est méprisable. Et cinquième chose, quoi?
Est-ce qu'on a le droit de faire l'inverse?
De se mépriser soi-même?
Oui, c'est-à-dire en gros de dire que regardez lui par rapport à moi, comment il est bien.
C'est pas interdit, je crois pas. Mais c'est idiot. Bon, ça me rappelle une fois au Machon Mir, il y a 30 ans. Un élève m'a dit, ma vie est détruite. Je dis pourquoi? Il dit parce que je ne suis pas le Rav Mordechai Eliyahu. Alors je lui ai dit, mais peut-être que la vie du Rav Mordechai Eliyahu est détruite parce qu'il n'est pas toi.
Je n'ai pas connu l'histoire de Rabbi
Yehoshua. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec l'histoire de Rabbi Yehoshua? Pourquoi est-ce que je ne suis pas... Non, c'est-à-dire que chacun doit être lui-même. On ne peut pas chercher à être l'autre. D'accord.
Hey. Là, ça lui a remonté le moral?
Je crois, oui. Ve'achoshed ksherim, celui qui soupçonne ceux qui sont innocents. Omer bilibo she'enochet, il se dit en son cœur, ce n'est pas un péché. Les filles chez vous, Omer, parce qu'il se dit, ma'asitilo, Est-ce que lui ai-je fait? Vechi yesham et la chachad. Il n'y a finalement qu'un soupçon. Shema asa, olor asa. Peut-être a-t-il fait, peut-être n'a-t-il pas fait. Veueno yodea, sheze avon, she mesim, adam kasher vedato kebala vera. Et il ne sait pas que c'est un péché parce qu'il considère quelqu'un de pur comme quelqu'un de pécheur. Donc ce sont des choses qui sont légères et pour lesquelles il est difficile de faire teshuvah.
Mais comment on fait? Tu sais, vous avez quand même un bel adam de la com, un chavero, ce qu'il veut dire.
Sinon, c'est la chavero.
Ben, comment on fait?
Comment? Si on fait chouva de ça.
Non, mais si je, il y a trois personnes devant moi, j'ai trois enfants et je vois il y a le pot de fleurs qui est cassé. Je sais pas lequel c'est. Et ils sont tous, c'est tous des très bons menteurs. Je suis obligé de me dire il y en a forcément un qui l'a fait. Je suis obligé de faire l'archod à l'âme alors qu'il est peut-être innocent.
Donc c'est là,
sinon je vais jamais trouver qui a fait ça.
Et ben tu trouveras pas, c'est pas grave. Ce n'est qu'un pot de fleurs.
C'était le pot de fleurs préféré de ma femme qui
était
très cher.
Ouais, ouais.
Vous avez été offert par quelqu'un.
Ouais, c'était. C'était oui la reine d'Angleterre.
Voilà.
Bon, ouais. Ben voilà, ben.
Imagine, pire que ça, il faut aller au cœur pour trouver des pots de fleurs.
Oui,
imaginez
mais...
que c'était un pot de fleurs offert par Manitou.
Et alors?
Oh là là, ça change rien.
Je me rappelle une fois à Pourim, j'ai bu une petite bouteille de vodka. Quand je l'ai fini, ma femme m'a dit c'est Manitou qui te l'a donné. C'était vrai. Tu vois? Et ben non, ben c'est pas grave. Hein, parce qu'elle était bonne. Bon. Hey. Oui.
En fait, cette liste-là qui ne raconte pas le Rabban, c'est pas un peu comme ce qu'on voit dans le Messie à Tisharim. Au début du Messie à Tisharim, je crois que le Rabban, il parle des gens qui ne voient pas, ce qu'ils font, que ce qu'ils font, c'est mal, en fait. Ils pensent que c'est bien.
Non, non, ce que je rentre pas là-bas, il dit, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils savent qu'est-ce que c'est que les midot, ils ne les savent pas vraiment. Ça qui dit. Omen, chamisha, dvarim, aose, otam, imashech, acharem, tamid. Et il y a encore cinq choses, celui qui les fait est entraîné en permanence. C'est-à-dire, c'est de l'addiction. Les kashim, même les froches, même. Il est difficile de s'en séparer. Les firat, c'est radam, l'isère, même. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas le faire. Shema idbak baem, de peur qu'il ne soit attaché à ces choses-là. Vem kulam de hot raot admeot, ce sont des mauvaises, ce sont des grands défauts. Veeluad, c'est quoi? Rechilut, c'est-à-dire le commérage. Velashonara, et la mauvaise, la médisance. Mouva alchema,
la cause entre les deux.
Rechilut, c'est rapporter ce que l'un dit à l'autre. C'est rapporter des choses. Okay. La shonara, c'est dire du mal de la personne. Uval chema, être coléreux. Uval marshava ra'a, ou avoir des mauvaises intentions. Vamitraber la racha, ou celui qui devient l'ami d'un méchant. Mipnesh ou l'omed du ma'asav et miyashami belibo. Parce que il apprend de ses actions et elles s'inscrivent dans son cœur. Voyez-vous, chez Shlomo, Shamar Shlomo, Viroé Kessilim Yaroa, c'est ce qu'a dit le roi Salomon, celui qui s'associe au mauvais, devient lui-même mauvais. Ou voir Bernou Ilchot Deot, nous avons déjà expliqué dans les Ilchot Deot, des varim, j'étais à quoi d'un minog ben tamid, ce qu'il faut toujours, accomplir, Kalvachomer, les Baal Teshuvah, à plus forte raison pour celui qui fait Teshuvah. La halakha vav, c'est deux lignes. Ces deux lignes sont importantes, bien que nous ayons fini le cours, comme on va les lire. Kol elu advarim v'chot zebaim, toutes ces choses-là, et tout ce qui ressemble, afalpi shemakim et tshuva, bien qu'elles entravent la teshuva, en moninota, ne l'empêche pas. Et la imasa adam teshuva mehen, arezebal teshuva, v'shlochet kon haba. Si on fait teshuva de cela, on est accepté, et on n'a pas olam haba. Voilà.
חיים בנים